Comment une université, ici l'Université de Liège, accompagne la transition de la société, mais également pense à sa propre transformation. À Liège, durant le mois d'avril 2024, l'équipe rectorale a jeté des passerelles avec la cité en participant au festival Rêve Général, un dispositif qui réconcilie la science, l'art et la démocratie. Car, quand tout s'effondre, on n'a plus d'autre alternative que de rêver à un avenir désirable, dit Pierre Osé, professeur de cette université. Alors, pour cette ouverture du premier festival Rêve Général, l'ULiège remettait des insignes docteur honoris causa à Aurélien Barraud, astrophysicien et philosophe. Vous êtes à la première édition du festival Rêve Général, sous chapiteau, au campus du Sartillement de l'Université de Liège, et vous écoutez Aurélien Barraud.
Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation et de l'accueil. C'est vraiment formidable de parler dans un chapiteau. Je vais avoir beaucoup de mal à refaire cours dans un amphithéâtre. Ça va me paraître très inapproprié, ou ce qui est encore pire, beaucoup trop approprié. Donc merci pour ce lieu presque hétérotopique qui est absolument magnifique à ce titre. Bon, je ne vous apprends rien, nous sommes dans une situation catastrophique et j'aimerais que nous nous posions ce soir une question assez simple et abyssale pourtant: que peut la science face à ce défi à nul autre pareil? Alors, comme à chacune de mes interventions, et comme ce soir cette écharpe me rappelle qu'il faut être un petit peu sérieux, je précise quand même que les propos qui vont suivre sont ceux d'un citoyen engagé et pas celles de mes institutions ni des éventuels laboratoires ou universités dont je dépends. Vous allez voir pourquoi la précision n'est pas tout à fait inutile. Je voudrais emmener personne dans ce Titanic. Alors, naturellement, bien sûr, la science intervient dans le constat de l'effondrement. Elle nous donne à voir l'état du monde au-delà des impressions et des ressentis individuels. Toutes les études sérieuses le montrent. Les populations animales s'effondrent. Les végétaux sont en stress extrême. Les fonds marins et leurs écosystèmes sont dévastés. Des feux ravageurs se répandent partout dans le monde. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction à court terme. L'espérance de vie humaine a vraisemblablement perdu environ 2 années eu égard aux particules fines. Des centaines de milliers de personnes meurent prématurément de la pollution chaque année et dans la seule Europe. Nous assistons, ou plus exactement, nous engendrons ce qu'il convient de nommer un anéantissement biologique global. J'emprunte les mots à des collègues écologues spécialistes. Alors, bien sûr, la science fiabilise ce constat et souligne que le drame plurifactoriel qui se joue actuellement ne fait littéralement plus question. Interruption des cycles biogéochimiques, acidification des océans, pollution, artificialisation des terres, destruction des habitats, surexploitation des ressources, réchauffement climatique, prolifération d'espèces invasives introduites par les humains, chute de la biodiversité. Mais le dire ici et le dire ainsi, c'est n'avoir pas bien compris que cette disparition de la vie est le problème en tant que tel et non pas seulement, bien sûr, l'une de ses origines. La catastrophe est donc clairement et éminemment systémique. La science produit effectivement des énoncés quantitatifs qui dépassent la simple expérience de chacun grâce à un régime d'intersubjectivité forte qui lui est spécifique. Environ les 2/3 des insectes, des mammifères sauvages et des arbres ont disparu, ou plus exactement ont été exterminés, respectivement en quelques années, quelques décennies et quelques millénaires. Les incertitudes sont assez importantes, Mais les études, bien que demeurant lacunaires, convergent sur un ordre de grandeur certainement correct. L'effondrement n'est donc pas pour demain, il est d'ores et déjà largement en cours. Sur les 9 limites planétaires qui furent définies il y a environ 15 ans, 6 ont été à ce jour franchies. Récemment, il est apparu que le pompage des eaux souterraines a légèrement déplacé, mais de façon mesurable, l'axe de rotation de la Terre. De nombreux seuils de relaxation sont d'ores et déjà dépassés. Le très sérieux rapport du MIT de 1972 posait de façon limpide la conclusion scientifique la plus élémentaire et la plus définitive. Les courbes des prélèvements ne peuvent demeurer durablement au-dessus de celles des ressources écosystémiques. C'est techniquement, scientifiquement et mathématiquement impossible. Tout cela est parfaitement juste. Il fallait le rappeler. Et le mérite de la clarté en revient en grande partie à la science. Mais il faut aussi prendre garde à cette vision presque déifiée d'une science toute puissante, presque tautégorique et nécessairement bienfaisante. D'abord, parce qu'il me semble important de rappeler cette évidence, mais parfois oubliée. La science n'est, pour le dire comme le philosophe américain Nelson Goodman, qu'une manière parmi d'autres de faire un monde. Elle est un système symbolique remarquable, mais certainement pas métafondationnel ou hégémonique. Elle n'a pas un rapport privilégié avec la vérité. Toutes nos élaborations correctes fonctionnent cognitivement, à commencer par les arts, si malmenés et pourtant si vitaux. J'y reviendrai, mais je le suggère dès maintenant, face à cette catastrophe, nous avons vraisemblablement plus besoin d'artistes que d'ingénieurs, d'imagination que d'astuces techniques. Alors, j'aimerais commencer en quelque sorte cette énumération des vertus, mais aussi des difficultés de la science, par une infime digression épistémologique. Non seulement la science, je viens de le dire, ne dit pas la vérité, mais, pardonnez-moi, chers confrères et chers collègues, et chers consoeurs, elle ne s'en approche même pas. Chaque nouveau paradigme étant infiniment éloigné du précédent comme du suivant. Les modèles se succèdent dans un rapport d'incommensurabilité. J'ajoute d'ailleurs de plus que la science ne va même pas vers l'unité. Au fur et à mesure que des théories concurrentes sont éliminées, d'autres fleurissent. Et s'il existe une forme de vérité scientifique, elle ne peut se déceler que dans une multiplicité coextensive de propositions mutuellement exclusives, quoique simultanément justes. Et ceci, remarquons-le, est en opposition farouche avec l'enseignement naïf d'une science qui serait halétiquement pure et symboliquement neutre. Mais ce qui m'importe ici, surtout, c'est que nous gardions à l'esprit, par humilité, par modestie et par honnêteté, qu'il est impossible d'invisibiliser les complicités évidentes, généralement non souhaitées mais bien réelles, entre la technoscience et la machine de guerre totale contre la vie. On peut le déplorer, mais pas le nier. Notre histoire est celle de cette connivence, en contrepoint naturellement de nombreux et tout aussi indéniables bienfaits. Finalement, dans ce geste de remise en question que je vous propose ce soir, d'une science exclusivement méliorative et normative, n'oublions pas que cette dernière, et ce n'est pas un détail, demeure muette sur les directions à choisir. La science peut aider à atteindre un but donné en intégrant telle ou telle contrainte, mais elle ne saurait décider à notre place de ce qui est souhaitable. Un monde entièrement artificialisé, sans oiseaux et sans arbres, sans étoiles et sans errance, n'est pas scientifiquement incorrect. Mais est-il désirable ? C'est la seule question fondamentalement importante et elle n'est pas de nature scientifique. Vous voyez ici comme la vision, ressassée ad nauseam, est superficielle, presque dérisoire. J'entends quant à la catastrophe écologique, bien sûr. D'abord, parce qu'elle met une emphase déraisonnable sur le réchauffement climatique. Alors que je viens de le rappeler, la catastrophe est globale et que celui-ci n'est qu'un problème parmi tant d'autres. Il est mis en avant, ce réchauffement, me semble-t-il, parce qu'il est en réalité le plus simple de nos problèmes, le seul qui fasse perdurer l'impression délirante que nous sommes face à un problème d'ingénieurs qui attend des solutions d'ingénieurs, parce que c'est tout ce que notre société de technocrates est hélas capable de penser. Ensuite, cette vision usuelle confond les causes et les conséquences. Toutes les origines souvent mentionnées sont en réalité le produit d'une idéologie fondamentalement mortifère. Tant que l'artificialisation totale du réel demeure notre but, tant que raser une forêt pour construire un parking est nommé croissance, tant que remplacer les livres par des vidéos TikTok est nommé progrès, tant que le colonialisme consumériste, à peine déguisé de nos habitudes touristiques, ose se penser comme une authentique confrontation à l'altérité, peu importe la manière dont nous cheminons, avec ou sans effet de serre, c'est bien un suicide qui est en ligne de mire. Avec ou sans carbone, cet échec et mat pour la vie, quel que soit le déroulement de la partie. Enfin, le problème vient de ce que se focaliser sur la durabilité, sans se demander ce que je suggérais il y a quelques minutes, à quoi peut bien servir de tenter, et en plus sans y parvenir, de rendre durable un monde qui n'est pas même souhaitable, me semble archétypal de nos envoûtements à nos différentes addictions. Considérons, si vous le voulez bien, un instant l'exemple de l'intelligence artificielle. Là encore, soyons clairs, la question, à mon avis, n'est pas de savoir s'il faut ou non décarboner l'IA. La question réelle est de savoir si nous voulons que des algorithmes, qui, cela dit en passant, n'ont d'ailleurs rien d'intelligent, produisent un réel prévisible, normé, calculé, sans exubérance et sans protubérance, adapté à la surveillance de masse et formaté à la rentabilité. Voulons-nous que les publicités soient ciblées pour décupler nos servitudes, que les contenus pseudo-informationnels soient choisis pour conforter nos convictions, que nos curriculums vitae soient lus par des machines, que nos partenaires amoureux soient désignés par des codes, que la finance mondiale, qui nous gouverne déjà dans une certaine mesure, soit régie par des programmes dont plus personne, y compris leurs auteurs et de leur propre aveu, ne comprend les rouages. Que nos désirs soient anticipés afin que plus aucune excursion hors des attendus ne puisse survenir, que nos assurances et autres vulnérabilités soient calculées en fonction de probabilités objectivées, que des drones de combat autonomes soient autorisés à tuer des cibles qui s'ignorent comme telles. Je crois que, indépendamment des liens bien réels pourtant, entre l'IA et la destruction des écosystèmes, entre l'IA et le néocolonialisme, indépendamment des très nombreuses vulnérabilités qui sont parfaitement documentées et associées à ces techniques en un temps où il faudrait viser la résilience, eh bien je crois qu'indépendamment de tout cela, la vraie question est, n'est-elle pas en tant que telle, et sans considérer ses externalités négatives, une véritable faillite ? Peut-on sérieusement s'enorgueillir de ses bienfaits quand on voit le bilan de l'armée qui actuellement se targue de l'utiliser massivement? Voilà ce que me semblent être les interrogations signifiantes et elles ne sont pas de nature scientifique. Comme toujours dans ces situations, interroger le bien fondé de cette nécrophilie numérique est néanmoins assimilé par nombre de spécialistes à une forme d'obscurantisme. Je crois que cette bouffonnerie a assez duré. Et surtout, qu'on ne nous dise pas que l'IA pourrait apporter des solutions au problème. Elle est le problème, une partie du problème, naturellement. Il y aurait, nous dit-on parfois, quelques effets positifs en médecine. Oui, évidemment, comme tout et n'importe quoi, comme toutes les substances cancérigènes. Imaginez que nous rasions toutes les forêts du globe à la recherche de nouvelles molécules médicinales, il y aura évidemment quelques effets bénéfiques en médecine. Et 10 ans après, nous serons tous morts. L'argument, vous en conviendrez, est faible. C'est ce que j'appelle parfois le point Godwin de la technodébilité. On pourra le renommer, si vous voulez, le point Barreau. Sans compter que de par son caractère intrinsèquement non disruptif, l'IA ne peut par essence rien d'important pour nous. Ce n'est pas elle qui nous dira si l'on préfère, et c'est ça la question, un casque de réalité virtuelle ou une balade dans une forêt réelle. La réalité dite augmentée est en réalité une irréalité diminuée. Certains experts commencent à le dire ouvertement. La bonne, et je les cite, la seule manière de rendre l'intelligence artificielle vertueuse, c'est de la démanteler. Ce qui se généralise, je crois, à l'essentiel des techno-offensives qui s'invitent quotidiennement et qui, bien loin de nous servir, effondrent littéralement un peu plus chaque jour notre puissance d'être. Dernier exemple sur ce sujet, les fameux agents conversationnels, ChatGPT. Un programme insipide qui permet de compléter les phrases en utilisant une approche statistique fondée sur les contenus ingurgités de façon à trouver la suite la plus probable et non pas la plus correcte en singeant l'écriture humaine. Magnifique. Vous vous rendez compte du niveau d'ensorcellement qui est le nôtre pour nous enthousiasmer de cela alors même que tout autour de nous, le magique, le merveilleux, la vie, s'effondre à grande vitesse. Au-delà du caractère presque ubuesque de ces tartufferies, il faut bien quand même comprendre que quelque chose d'un peu grave se joue ici, parce que c'est une double trahison de la référentialité. Tout le langage, n'est-ce pas, est fondamentalement référentiel. D'une part, référence à l'allocuteur, à la locutrice ou au locuteur, d'autre part, référence au réel. Les deux référentialités sont trahies, effondrées, oubliées, omises par les agents conversationnels. Je crois qu'il s'agit authentiquement d'une régression. Tout cela pour dire que si la science a un rôle à jouer dans notre survie, ce n'est évidemment pas celui consistant à inventer des solutions, alors que nous n'avons pas même commencé à discuter sérieusement de ce qui posait problème. Les questions à poser sont aujourd'hui politiques, philosophiques, éthiques, esthétiques, artistiques, mais pas scientifiques avant tout. Aucun calcul ne nous dira si nous voulons continuer à lâcher des bombes. Tenter de les construire en matériaux équitables ou renouvelables est une question secondaire. Et je crois que le rôle de la science n'est pas non plus celui de produire de grandes estimations quantitatives qui ne peuvent dépendre que de variables dont la remise en cause de la pertinence serait précisément le véritable geste révolutionnaire. Je crois que l'authentique pouvoir transfigurateur de la science, s'il existe, il est tout à l'inverse dans sa capacité à tenter de renouveler radicalement notre vision du monde. Autrement dit, à proposer une ontologie alternative. Et ça tombe plutôt bien, parce que c'est normalement ce que nous autres scientifiques sommes supposés proposer. Finalement, le seul geste inutile, pour ne pas dire coupable aujourd'hui, c'est celui consistant à corroborer nos croyances et à entériner nos errances, autrement dit, à faire fonctionner la machine comme si de rien n'était. Nous sommes endoctrinés à la technodélinquance. Et je pense qu'il est temps de réinvestir la science de son extraordinaire pouvoir de subversion en ne lui déniant plus sa charge poétique. Autrement dit, il est temps de plaider pour une science nomade, bohémienne de la vérité, touareg ou tzigane de la pensée. Voilà ce qui me semble maintenant faire sens. D'autant plus, et j'ai nommé cela l'hypothèse K, que je crains que nous soyons maintenant entrés dans une phase de développement métastatique de notre cancer ingénierico-nihiliste. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que les cellules malignes, vous le savez, ont alors tendance à vivre en quasi-autonomie, jusqu'au trépas de l'hôte, dont elles ne dépendent plus que marginalement. Alors, il y a ici, me semble-t-il, de grandes leçons à tirer de la médecine. Bien sûr, il faut un traitement étiologique et non pas symptomatique, c'est-à-dire s'intéressant fondamentalement aux causes. Se focaliser, je l'ai déjà dit, mais je le répète, sur la réduction des émissions de CO2, c'est user du paracétamol pour traiter une tumeur au cerveau. Ça peut soulager, mais ça demeure fondamentalement inutile. Ensuite, et naturellement, la leçon oncologique montre qu'il est presque toujours indispensable de multiplier les thérapies parce qu'il faut penser de façon systémique et globale. Et enfin, la médecine invite à redéfinir ce qu'est le concept même de victoire. Quel paradoxe ! Nous pourrions, je crois, en réalité, gagner sur tous les tableaux, c'est-à-dire conjurer simultanément ce qui effondre le sens et ce qui mutile la vie. Mais notre ensorcellement est tel que nous voyons encore, trop souvent, l'indispensable révolution comme une sobriété triste ou un inconfort déplorable. Le renversement mortifère des valeurs effondre tout espoir s'il n'y a pas une révolution axiologique. Il me semble que le meilleur pari pour initier celle-ci pourrait consister à regarder au moins en partie exact là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire au cœur des sciences dures. Qu'elles se retournent contre leur carapace d'airain et posent les jalons d'une déconstruction profonde. La science n'est ni du bon ni du mauvais côté. Elle est là où on la met. Et je crois que ce qui est important, c'est de renouer avec le véritable sens de ce que devrait être la recherche. C'est à la fois extrêmement simple, banal, trivial, mais c'est aussi très difficile, parce que nous nous sommes collectivement, et moi le premier naturellement, fourvoyés. Si loin de ces évidences que toute notre architecture institutionnelle plaide implicitement contre ce geste salvateur. Il me semble que de tous les combats qui nervurent ce temps, et je mets les guerres hideuses pour lesquelles je n'ai pas même de mots, celui qui est le plus important, c'est vraisemblablement l'affrontement du prosaïque et du poétique. Bien sûr, il faut un peu de prosaïque, c'est-à-dire du normé, du reproductible, du machinique, du calculable, de l'utilitaire, du maîtrisé, de l'exploité, du domestiqué, de l'approprié, du réglé. Mais je crois que ce prosaïque devrait être tout entier au service du poétique, c'est-à-dire du surgissement de la chose même, de la vie, de la singularité, de la grâce, de la communion contre la communication, du sauvage, de l'imprévu, de l'indigène, de l'amour. Pour une science poétique, donc. C'est-à-dire une science qui tente de contribuer à l'indispensable révolution qui redéfinirait la structure même de nos réels, qui tente de subvertir les inerties mortifères en s'extrayant radicalement du productivisme du savoir et de toutes les formes de ce que le philosophe Mohamed Amer Meziane nomme dans son anthropologie métaphysique l'impérialité. Voilà le véritable ennemi. Alors, bien sûr, je ne vais pas présenter mes propres recherches comme des exemples paradigmatiques de ce que devrait être la science. Ça serait présomptueux, prétentieux et finalement un peu ridicule. Mais je vais quand même vous livrer quelques éléments de mes travaux comme un infime embryon qui ne demande qu'à être bien sûr utilisé et déployé dans cette vaste entreprise déconstructrice non encore véritablement ébauchée. Vous le savez, la physique du XXe siècle repose sur deux piliers, la relativité générale et la mécanique quantique. Permettez-moi de passer un peu de temps sur l'interprétation, sur le sens profond de ces deux théories, car je crois que c'est là que se situe précisément l'essentiel qui, hélas, est pourtant la dimension usuellement négligée. La grande théorie d'Einstein, donc, la relativité, présente, on le sait, un espace qui se distord et se distend eu égard à la présence des corps. Un espace qui devient courbe, riemannien plus qu'euclidien, diraient les mathématiciens. La leçon généralement retenue est celle-ci. Mais plus profondément encore, je crois qu'il est essentiel de comprendre que l'espace-temps devient ici dynamique. Il est en évolution. L'expansion de l'univers est une dilatation de l'espace et non pas un mouvement des galaxies. Autrement dit, l'espace-temps n'est plus le cadre, au sens kantien, dans lequel se déploient les phénomènes, mais il devient lui-même un phénomène, un champ parmi les autres. Le cadre, pourrait-on dire, fait à nouveau partie de l'œuvre, le monde devient purement relationnel. L'autre, théorie fondatrice, la mécanique quantique, décrit quant à elle à merveille le comportement de la matière et de la lumière. Elle défie l'intuition en présentant un monde discret, discontinu à petite échelle, comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Par ailleurs, elle ouvre une sorte de nouvelle blessure narcissique dans l'architecture des sciences de la nature. Les prédictions ne peuvent plus être menées que de façon probabiliste. Il est impossible de prévoir avec certitude ce que sera le résultat d'une mesure, quelle que soit la connaissance que nous ayons du système considéré. Les algèbres se font non commutatives, c'est-à-dire que l'ordre des mesures influe sur le résultat de ces dernières. Et de magnifiques phénomènes d'intrication semblent conduire à des interactions apparemment immédiates entre des particules arbitrairement distantes. Tout cela est fascinant, bien qu'entériné par nos expériences. Depuis peu, la grande nouveauté, à mon sens, se situe au niveau du cadre interprétatif qui est bien trop souvent négligé. Généralement, dans les études de physique, on explique aux étudiants et étudiantes que tout cela est bien étrange, c'est vrai, mais qu'après tout, peu importe, ça n'empêche pas de faire les calculs. Quelle folie ! À quoi bon disposer d'une théorie littéralement extraordinaire qui réinvente le monde si c'est pour immédiatement l'effondrer dans l'amélioration des CPU des ordinateurs et donc dans l'accélération de la fin du monde, que vous l'entendiez au sens de cosmos ou de mundus. Le physicien génial Carlo Rovelli a récemment montré que certaines incohérences connues de la mécanique quantique notamment le fait que deux observateurs ou observatrices peuvent donner des descriptions différentes et incompatibles de la même séquence des vêtements, essentiellement parce que la mesure joue un rôle central dans la mécanique quantique sans être correctement définie. Il a donc montré que tout cela pouvait être dépassé si l'on renonçait au concept d'état quantique. La phrase vous semble probablement anodine, technique, pour ne pas dire pénible, secondaire. Mais en réalité, elle est absolument révolutionnaire. En réalité, ce que signifie cette phrase, c'est que l'être physique, au sens le plus fondamental, n'existe pas. Que l'étant, si on veut le dire dans les topiques heideggeriennes, dans sa dimension ontologique la plus pure, est exclusivement relatif. De façon métaphorique, la même fleur pourrait être bleue pour une abeille et rouge pour un bourdon. Le chat de Schrödinger pourrait être simultanément mort pour l'expérimentateur, mais en vie pour ses chatons. Le cœur dur des choses se diffracte de dedans. Non pas par manque de connaissances, c'est ça qui est intéressant, mais parce qu'il n'est pas possible de ne pas repenser le sens même de la copule. Quel lien avec l'écologie, me demanderez-vous ? Mais je crois qu'il est évident. Il est partout dans ce que je viens de vous raconter. Parce que suggérer une redéfinition du socle métaphysique du réel, chambouler toute notre architecture symbolique, c'est exactement ce qui peut nous donner une chance. Et c'est là, je crois, que la science joue à plein un rôle bienfaisant et révolutionnaire. Non pas, je le redis une dernière fois, en améliorant l'efficacité énergétique des moteurs, qui, en conséquence immédiate de cette éventuelle amélioration, seront immédiatement drastiquement plus utilisés et accéléreront donc notre chute et appauvriront notre rapport à l'espace. Ce n'est pas là que la science a un rôle à jouer. Ça ne marche jamais et ça ne s'attaque pas au vrai problème. Bien au contraire, c'est ici que tout se passe, dans cette réinterprétation de ce qu'est le monde, dans cette gigantesque ouverture de possibles. Je vous ai parlé un peu de mécanique quantique et de relativité. Reste à concilier ces deux grandes théories. C'est ce qu'on nomme la gravitation quantique. Ce n'est pas une mince affaire. Il n'existe aucun modèle consensuel en ce sens à ce jour. L'approche sur laquelle nous travaillons dans mon groupe à Grenoble, la gravitation quantique à boucle, est une théorie spéculative, mais raisonnable. Elle laisse entrevoir l'existence possible de petits atomes d'espace qui évolueraient de façon stochastique, c'est-à-dire aléatoire. Aussi anodine cette image puisse-t-elle sonner, là encore, elle transfigure notre vision de l'univers jeune. Nouvelle révolution potentielle. Le Big Bang serait alors transformé en Big Bounce, c'est-à-dire en grand rebond. Le temps réacquérerait son éternité. Toute la pensée des origines se désarrimerait. Et une phase de contraction aurait alors, et il faut le dire au conditionnel, précédé l'actuelle expansion de l'univers. Cosmos se symétrise autour de chaos. Les trous noirs eux-mêmes, ces bouches ouvertes sur la clôture de l'espace, s'en trouveraient métamorphosés. Loin de s'établir comme des structures stables, ils pourraient subir le même sort que l'univers et rebondir en trous blancs. Ils constitueraient alors de véritables machines à voyager dans le temps, recrachant dans le cosmos contemporain les rayonnements ingérés lors des premiers instants. Ou peut-être, faut-il plutôt considérer la théorie concurrente, la théorie des cordes ? Et si les particules élémentaires n'étaient pas ponctuelles, mais devaient plutôt être pensées comme des petits élastiques oscillants, chacun des corpuscules connus étant alors réinterprété comme un mode particulier de vibration des cordes quantiques fondamentales. À l'instar d'une corde de violon qui, suivant la position des doigts sur le manche, peut générer toutes les notes de la gamme chromatique. L'image est séduisante, mais est-elle viable ? Étonnamment, il nous semble que cette théorie, qui concerne des objets extraordinairement petits, pourrait être mise à l'épreuve par l'étude de l'évolution cosmologique à grande échelle. La dynamique de l'accélération cosmique aujourd'hui observée semble difficilement compatible, si sa forme se confirme, avec le monde des cordes quantiques. Quelle belle complémentarité entre le microcosme et le macrocosme. Nous avons calculé que les mesures astronomiques à venir pourraient apporter des réponses, si ce n'est décisives, au moins convaincantes. Un univers en accélération exponentielle, le nôtre donc, pourrait mal s'accommoder sur le temps long avec un lit de cordes quantiques élémentaires. Là encore, l'enjeu pourrait vous sembler totalement dénué de tout lien avec l'effondrement de la vie. Mais il n'en est rien. Je crois que se donner une chance aujourd'hui, c'est exactement cela. C'est tenter de redessiner l'architecture du réel et non pas améliorer son bilan carbone. Pensez, puisque j'évoque la théorie des cordes, à ce qu'on nomme le multivers. C'est une idée ancienne, le multivers. Elle est née avec Anaximandre dans la Grèce antique. Elle s'est développée à la Renaissance avec Giordano Bruno, Nicolas de Cuse, avec son frère de cœur français, François Rabelais. On la retrouve à l'âge classique avec Leibniz, au XVIIIe siècle avec Fontenelle, en philosophie contemporaine avec Lewis. Et elle fait aujourd'hui effraction dans le cœur des sciences dures. Existe-t-il une infinité d'autres mondes avec des lois physiques différentes qui structurent l'espace de façon antagoniste à nos attendus? Et si oui, la proposition est-elle encore scientifique alors qu'elle est difficilement falsifiable? Vous voyez que c'est à la fois l'architecture du monde et l'architecture de la pensée qui sont ici, pour le meilleur, en question. Je crois donc, pour conclure, que si la science peut jouer un rôle, c'est dans une redécouverte de l'humilité et de l'altérité, tout à l'inverse du technosolutionnisme et du gigantisme arrogant qui la caractérise parfois. Donc, sauf pour Einstein Télescope, parce que cette université est candidate, alors il faut soutenir Einstein Télescope. Et c'est très bien, les ondes gravitationnelles. Mais donc, à cette exception près, le gigantisme est un problème. Imaginez que nous parvenions un jour, et là je reviens à la science appliquée et non plus à la science fondamentale, à trouver une source d'énergie propre et infinie. ITER, par exemple, la fusion nucléaire. Mais je crois sincèrement que ce serait la pire nouvelle possible, alors qu'à tort, 95% de nos ingénieurs sont convaincus que ce serait l'Eldorado. Pourquoi rien ne serait plus dramatique que cette énergie propre et infinie? Parce que dans notre axiologie actuelle, c'est-à-dire dans notre système de valeurs, il est évident, les faits le montrent, que cette énergie serait instantanément utilisée pour parachever notre travail d'artificialisation du réel et de réification des vivants. Accessoirement et indépendant des externalités négatives immenses, elle ne nous rendrait même pas heureux. Mais ça, c'est une question qui semble désuète et que plus personne n'ose se poser sérieusement. Regardez le spatial, cette dernière éjaculation nihiliste. Nous nous enorgueillissons des lanceurs privés, des constellations défigurées, des satellites artificiels, de cette course à la conquête du néant relancée par des astronautes devenus pantins médiatiques et érigés en héros fantoches, de ces publicités embarquées, de ce tourisme obscène pour milliardaires en déshérence. Et qu'on ne s'y trompe pas, je dois aussi plaider contre ma chapelle. Les télescopes spatiaux participent à cette vaste entreprise de désublimation. Il serait un peu trop simple et un peu trop manichéen de décréter que nous, les scientifiques, sommes intrinsèquement du côté du bien, tandis bien sûr que les industriels et les entrepreneurs seraient du côté du mal. C'est un peu plus complexe que cela. D'ailleurs, c'est bien un lanceur SpaceX, c'est-à-dire mené par l'homme le plus nuisible au monde, qui a mis en orbite notre dernier instrument de recherche, lui-même construit par Airbus Defence and Space. Au-delà des collusions économiques, la question essentielle qui se joue ici est celle de la dépoétisation du cosmos. Évoquer les amoureux du ciel et de la conquête spatiale, ce serait un peu comme parler des amoureux de la vie et du meurtre. Rien n'est plus drastiquement opposé que le ciel et la conquête. Rien n'est plus éloigné de la sacralité magique et sublime des cieux étoilés que l'arrogance vulgaire des satellites commerciaux, des futurs hôtels en apesanteur et des facéties violentes et suffisantes d'Elon Musk et consorts. Je crois qu'il faut gagner la course à l'espace en y renonçant et en retrouvant le seul vrai rapport possible à la sublimité des magnificences sidérales, qui, vous l'avez compris, est un rapport d'humilité à mon sens. Se passionner pour la possible découverte de 3 bactéries sur Mars, quand 1 million d'espèces sont en train de disparaître sur Terre, je ne peux pas le comprendre, je ne veux pas le comprendre, et je crois que ça relève de la pathologie. En véritable conclusion, nous sommes donc ceux qui n'ont rien compris, et certainement les premiers à nous entêter à ce point, malgré la connaissance irréfragable de l'échec. Derrière notre raffinement de façade, derrière cette magnifique université et toutes les autres, dont je suis honnêtement flatté et heureux de recevoir aujourd'hui les honneurs, nous demeurons, nous tous et toutes dans cette pièce, des représentants de la civilisation la plus meurtrière qui fut jamais à l'échelle de la biosphère. Dans cette circonstance, toute pensée qui se ne déploie pas hors de l'ordre me semble aujourd'hui caduque, morte-née et effondrée avant d'éclore. Merci.
Vous écoutiez Aurélien Barraud, docteur honoris causa de l'Université de Liège, enregistré le 2 avril 2024. Il proposait un bref état des lieux de la catastrophe écologique, le rôle de la science face à ce désastre et un exemple en cosmologie.